Il y a une mitzvah de compter les jours et les semaines. Et évidemment, quand on parle de compter, il faut évidemment savoir exactement à partir de quel point on parle, à partir de quel point on compte. L'origine à partir de laquelle on va compter 1, 2, 3, etc. jusqu'à 49. Le 50e jour sera Shavuot. Et donc, il y a un point très important. Il y a le point de départ, il y aura aussi le point d'arrivée, et puis ensuite le décompte lui-même. Alors, voilà, le point de départ, dans la Torah, c'est écrit de façon très étrange. C'est marqué dans la Torah, « Usfartem, vous allez compter, Usfartem lachem, vous allez compter, et puis on nous donne le point de départ, et on nous dit, « Mimachorat à Shabbat » à partir du lendemain de Shabbat. Et puis, on donne une deuxième précision. Miyom aviachem et omer atnufa. À partir du jour où vous allez apporter le omer. Donc, vous voyez, l'origine, elle est définie de deux manières. L'origine, c'est un lendemain de quelque chose qui s'appelle Shabbat, mais c'est aussi, mais le premier jour dans le décompte, c'est un jour où on a apporté un korban qui s'appelle Omer. Alors, je prends la première partie. Dans la suite du verset, il est dit, et vous allez compter. Donc, les fameuses 7 semaines. Et puis, jusque au Shabbat, au 7e Shabbat. Alors, Rashi, sur la première occurrence du mot Shabbat, il fait une remarque. Il dit, en vérité, on ne sait pas de quel Shabbat on parle. Le mot Shabbat, a priori, ça fait référence à ce qu'on appelle Shabbat de Bereshit, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, le jour où Hachem a fait Shabbat au moment de la création, et puis ensuite, toutes les semaines, toutes les septaines en quelque sorte, on répète ce jour-là, ce jour s'appelle Shabbat. Si on lit qu'il s'agit d'un départ qui a lieu un lendemain de Shabbat, c'est-à-dire un Yom Rishon, un dimanche, si vous voulez. Le compte commence un dimanche. Mais après, si on lit la suite, et si on, quand on parle du 7e Shabbat, et puis ensuite, on nous dit, ça fait 50 jours, enfin, 49 jours et 50e. Mais le compte n'y est pas. Si on commence par un Shabbat, on va un Shabbat, alors le compte n'y sera pas. Parce qu'on n'aura pas 50 jours. Rashi dit, si ça se trouve, les commentaires disent, on aura peut-être seulement 43 jours ou quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que le verset se présente comme un verset qui nous dit que le compte commence un lendemain de Shabbat, Mimachorat à Shabbat. Mais en réalité, le mot Shabbat, ici, il veut dire Pessah. Imachorat à Shabbat, ça veut dire au lendemain du Pessah. Qu'est-ce qu'on appelle Pessah? C'est pas le lendemain de la fête de Pessah. Parce qu'en vérité, quand nous on appelle les jours pour nous en Kousnaaretz de Pessah, c'est un abus de langage. Parce qu'en réalité, la fête en question, c'est Chag HaMatzot. Pessah, c'est lié avec le Korban Pessah, avec l'agneau pascal, l'agneau que les Bnei Israël avaient reçu comme mitzvah de mettre de côté le 10e jour du mois de Nissan et le 14e jour d'en faire la shrita, le griller, on grille le soir et on le mange. Et nous, on fait la même chose, sauf que, a priori, on n'attache pas obligatoirement l'agneau au montant du lit. Donc, le mot Pessah, il est adéquat pour la nuit où on mange le Korban Pessah, la nuit du Seder, et éventuellement, disons, la journée qui, le jour qui contient cette nuit-là. Un jour composé d'une nuit suivie d'une journée contient donc cette nuit de Pessah, cette nuit du Seder. Donc ça peut très bien s'appeler Pessah. Donc, Mimachorat à Pessah, c'est-à-dire comme ça qu'il faut l'entendre, ça veut dire on va commencer à compter le lendemain du jour où on a approché et mangé le Korban Pessah. C'est un peu acrobatique de dire que le mot Shabbat veut dire Pessah. Mais parce qu'on a lu comme ça, c'est-à-dire que c'est Pessah, alors on ne va pas pouvoir lire le Shabbat, le septième Shabbat, au sens habituel, le septième Shabbat, Shabbat Bereshit. On va être obligé de lire que le septième Shabbat, ça veut dire la septième semaine. Shabbat comme Shabbat Hashvi'it, comme la septième semaine. Donc, à cause de cette lecture un peu étonnante du mot Shabbat, par la suite, on est obligé de dire que le mot Shabbat, dans la suite du verset, c'est le verset d'après en réalité, on ne peut pas non plus l'utiliser au sens habituel du mot Shabbat, on est obligé de dire que ça parle de la semaine. Shabbata, c'est en araméen, ça peut vouloir dire la septaine, c'est-à-dire la semaine. C'est septaine de ce Shabbat. Shabbata, c'est celle qui contient un Shabbat. Il faut savoir que cette lecture-là, le Shabbat qui veut dire Pessah, elle est contestée par une secte, en quelque sorte, hérétique, qui s'appelle les Tzedoukim, les Sadducéens. Les Sadducéens, ils disaient, non, il faut lire Shabbat comme étant Shabbat Bereshit, et on commence toujours par un lendemain de Shabbat. Le décompte commence toujours par un dimanche. La trace de cette lecture qui est a priori une lecture qui est bonne parce que Shabbat ça veut dire Shabbat a priori, c'est resté dans le christianisme où pour eux c'est toujours un dimanche qui est le dimanche de Pâques et le dimanche de ce qu'ils appellent la Pentecôte, d'accord. C'est toujours dimanche, et comme ils font deux jours par Sofek, alors ils font aussi dimanche et lundi, mais bon, c'est le dimanche, en fait. C'est une grande, grande marloquette entre les Sadducéens et les Poshim et les Rachamim. C'est un grand, grand problème. En tout cas, le mot Shabbat ici, qui est utilisé pour définir l'origine d'une de notre décompte. Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain de Pessah. Et évidemment, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que la Torah nomme Pessah Shabbat? Qu'est-ce qui empêchait la Torah de dire, vous allez commencer le compte le 16 Nissan. Le 15 Nissan, c'est le jour dont la nuit est la nuit du Seder. C'est le 15 Nissan, et le lendemain de ce jour-là, c'est le 16 Nissan. Qu'est-ce que... Il n'y avait rien qui empêchait la Torah, a priori, de le dire comme ça, sauf que la Torah, visiblement, elle veut nous dire quelque chose en utilisant le mot Shabbat pour décrire le mot, pour parler de Pessah. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi et comment on peut nommer Pessah Shabbat? On peut penser de la manière suivante. La différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Yom Tov, si vous allez à la synagogue et que vous rencontrez des gens et que vous avez envie de les inviter, vous pouvez les inviter. Parce que si on n'a pas suffisamment préparé de nourriture, c'est Yom Tov, on pourra faire la shrita et on pourra préparer à manger pour servir à manger à ces personnes qu'on a invitées sans l'avoir préparé à l'avance. Shabbat, vous ne pouvez pas faire comme ça. Shabbat, vous pouvez inviter combien de personnes vous voulez, mais il faut le savoir à l'avance. Parce que Shabbat, on a ce qu'on a et on ne peut pas ajouter, on ne peut pas cuire, on ne peut pas, parce qu'on a des nouveaux invités, on ne peut pas leur préparer à manger. Alors, on peut dire d'une certaine façon que Yom Tov, c'est un temps ouvert. C'est ouvert parce que on peut ouvrir sa maison à qui on veut, à Yom Tov. Et par opposition à Yom Tov, il y a le Shabbat qui, de ce point de vue-là, est fermé. C'est fermé parce que Shabbat même, on ne peut pas ouvrir sa maison à des gens qu'on n'avait pas prévu d'inviter. C'est vrai pour tous les Yamim Tovim, le Yom Tov est toujours ouvert. Sauf le soir du Seder. Sauf quand on mange le Korban Pessah. Parce que le Korban Pessah, on ne peut le manger qu'en ce qu'on appelle Chaboura. C'est-à-dire que Erev Pessah, il faut que on se regroupe, maisons, plusieurs maisons, etc., se mettent ensemble pour acheter en commun un agneau et acheter un agneau dont le poids de viande que cet agneau va nous permettre d'avoir correspond à, disons, un kezaït. Disons qu'un kezaït de viande, ça fasse 30 grammes. Et donc, le poids de viande de l'agneau divisé par 30 grammes, ça nous donnera le nombre de personnes qu'on peut organiser, qu'on peut mettre ensemble sur cet agneau comme Korban Pessah, de telle sorte que chacun puisse manger un kezaït, la grosseur d'une olive, donc de viande de cet agneau-là, qui est le Korban Pessah. Comme vous savez, on le mange rassasié à la fin du repas. Donc, en général, on ne peut pas manger plus que un kezaït. Et d'un autre côté, on ne veut pas non plus qu'il en reste, parce que ça devient ce qu'on appelle notar. Et c'est très ennuyeux parce qu'il faut le brûler, etc. Donc, par exemple, si on a acheté un agneau qui donne 9 kilos de viande, et divisé par 30 grammes, alors il faut être 300 personnes. Il y aura un groupe de 300 personnes, 300 mangeurs du Korban Pessah. Et quand on appartient, alors on appartient à ce groupe-là, c'est fixé au moment de la shrita de l'animal, et on ne peut pas manger du Korban Pessah d'un autre groupe, et on ne peut pas permettre à quelqu'un d'autre de venir manger dans le groupe en question. Donc, ce que nous disons le soir du Seder, que tout celui qui en a besoin qu'il vienne et qu'il fasse Pessah avec nous, ça marche seulement aujourd'hui parce que nous n'avons pas de Korban Pessah. Mais si on avait le Korban Pessah, on ne pourrait pas le dire. Donc en réalité, le soir de Pessah est un peu comme Shabbat, c'est fermé. Et c'est ça le point commun qu'il y a entre Shabbat et le Pessah, le Korban Pessah, c'est cette idée d'une fermeture. Fermeture pourquoi? Alors, si vous regardez les psukim qui parlent de Pessah, de la fête de Pessah, c'est-à-dire de Chag HaMatzot, vous voyez que le septième jour, dans la Torah, il est écrit que le septième jour, c'est Atzeret. Atzeret, a priori, presque tout le monde, Ramban, presque tout le monde pense qu'Atzeret, ça veut dire on cesse tout le travail, etc. Et c'est aussi la fin de la fête. Mais comme vous le savez probablement aussi, les Chachamim, quand ils parlent de la fête de Shavuot, ils ne l'appellent quasiment jamais Shavuot. Il l'appelle toujours Atzeret. Donc, il y a deux Atzeret de Pessah. Un Atzeret qui a lieu le septième jour et un Atzeret qui a lieu 49 jours après le début de après le Korban Pessah, le lendemain du 49e jour, donc 50e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut avoir deux Atzeret qui... Atzeret, c'est quand même la fête de clôture. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le septième jour, c'est la fête de clôture de Chag HaMatzot. C'est la fin du moment où on mange les matzot. Mais la Atzeret de Pessah, du Korban Pessah, elle a lieu beaucoup plus tard, elle n'a lieu que à Shavuot. C'est ça la Atzeret. Donc, il y a une Atzeret de Chag HaMatzot, septième jour de Pessah, la fête qu'on appelle Pessah, et à la Atzeret du Korban Pessah, qui a lieu au moment de, enfin, qui a lieu à Shavuot. Donc ça, c'est pour cette référence de Imachorat à Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du jour où on a apporté le Korban Pessah. Quand on a apporté le Korban Pessah, vous vous souvenez, je viens de le rappeler, les Bnei Israël avaient reçu la mitzvah de mettre de côté ce fameux agneau le dixième jour du mois de Nissan. Et donc, pendant 4 jours, cet agneau attaché là, il est en quelque sorte comme une provocation par rapport aux Égyptiens. Si les Égyptiens viennent et ils demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'attacher un agneau au montant de votre lit? On lui dit, ah, on va tuer on va égorger cet agneau. Mais eux, ça fait référence à une de leurs idoles. Et donc, à la limite, ils voudraient nous massacrer. Mais bon, Hachem les en a empêchés. Pour vous imaginer qu'au lieu d'un agneau, vous mettiez bon, il faudrait renforcer le montant. Vous mettiez une vache sacrée en Inde, d'accord, et que quand un hindou de service vous demandera qu'est-ce que vous allez faire avec cette vache sacrée, vous lui dites que on va en faire un corban. Je pense que vous finirez pas la phrase, vous serez mort avant. Bon, c'est une telle provocation, et c'était le but de l'exercice. Il s'agissait de montrer qu'on allait détruire les idoles égyptiennes, qu'on coupait complètement avec l'idolâtrie égyptienne. Ce moment-là, Pessah, c'est un moment de fermeture, comme on a vu. Fermeture, on ferme la période durant laquelle on était en Égypte, on était esclave en Égypte, et on était influencé par la civilisation égyptienne, et on était, comme on va le voir plus loin, idolâtre. Donc, c'est une rupture avec l'idolâtrie. Donc, notre conte de l'Homère, il commence le lendemain de la rupture avec l'idolâtrie. Mais on ne nous dit pas seulement cet aspect-là des choses. On nous dit que c'est aussi le jour où on apporte ce fameux Korban Homère. Alors, ce Korban Homer, il est un peu spécial. En gros, on connaît comme korbanot essentiellement des animaux, donc faire la shrita, et des menachot, c'est-à-dire des crêpes, si vous voulez, c'est-à-dire des offrandes végétales, avec de l'huile, plus ou moins d'huile. Il y a des menachot tunisiennes et des autres aussi, avec plus ou moins d'huile. Et ici, c'est quelque chose de tout à fait spécial. On va, le soir du Yom Tov, on va aller couper, on va aller moissonner en quelque sorte quelques épis. Et puis ces épis, on va les amener, on va les... Bon, il y a tout un processus, mais en gros, on peut dire, on va les balancer devant le misbéar, devant l'autel. Donc c'est une forme d'offrande à Hachem. On offre quelque chose qui est quasiment une matière brute. Et quelle matière? Alors ce qu'on amène, c'est une céréale. Et on amène la céréale qui, par ailleurs, est la céréale qui est la plus rapidement mûre, en tout cas à cette époque et dans ces conditions, les conditions d'Eretz Israël, et c'est de l'orge. Le grand problème, c'est que l'orge, dans la Torah, il n'a pas très bonne presse. L'orge, c'est la nourriture animale. C'est la nourriture qu'on donne aux animaux. Par opposition au blé, qui est la nourriture humaine. Et donc, on commence par faire ce, au premier jour du décompte. Le décompte démarre aussi, donc, avec cette espèce de corban qui ressemble pas à grand chose, qui ressemble pas à ce qu'on a par ailleurs, parce que par ailleurs, quand, ok, c'est végétal, mais quand on apportait une offrande végétale, alors c'était quand même la résultante d'un travail. Il fallait la faire, cette crêpe. Il fallait faire cette pâte et on prenait pas, tandis que là, on a la matière brute. En tout cas, on commence par ça. Donc, notre commencement, l'origine, elle est là. Elle est dans la rupture avec, si on peut dire, rupture avec l'idolâtrie, et un commencement d'une démarche d'ouverture vers Hachem, puisque apporter un korban, c'est s'ouvrir à Hachem, ouvrir une relation avec Hachem. Historiquement, donc, le clan d'Israël est au tout début de son parcours. Il commence ici, à ce moment-là. Donc, offrande végétale, nourriture animale, pratiquement aucun travail humain dans ce qui est offert, dans ce qui est approché ici. Ça ne va même pas sur le misbéach, en quelque sorte. Ça, c'est le point de départ. Dans le point d'arrivée, au moment de Shavuot, dans Shavuot, il y a aussi un korban, mais il est beaucoup plus sophistiqué. Ce korban, il contient évidemment des kvassim, il contient des agneaux, des cabris, etc. Mais il contient aussi deux pains, shtei alechem. Donc deux pains. Et on pourrait penser que voilà, on a la viande et on a le pain, et qu'est-ce qui est le plus important, si on peut parler comme ça, dans ce korban? A priori, c'est l'ensemble, c'est la viande qu'on va. C'est pas du tout. Le korban dont on parle, il s'appelle toujours jeté à l'échem. Bien sûr, on sait très bien qu'en même temps, on va apporter les kvassim, mais ça s'appelle jeté à l'échem. Alors d'abord, le l'échem en question, c'est par opposition à ce qui se passe au début, à la fin, dans la fin du processus de la Sfirat HaOmer, le korban qu'on apporte, c'est du blé. Et puis ensuite, c'est un pain. Ça veut dire on l'a travaillé. On a fabriqué du pain. C'est pas simplement qu'on aurait éventuellement un peu ébouillantée ou brûlée un petit peu, etc. Non, on a fabriqué le pain. On a fabriqué du pain, donc il y a un travail humain, il y a une nourriture humaine. Et le paradoxe, si vous voulez, ici encore, c'est que contrairement à ce qui se passe presque tout le temps dans le Beth Amikdash, ici, ce pain-là, c'est du Hametz. C'est-à-dire, c'est volontairement du Hametz. Alors, c'est étonnant que ce soit du Hametz parce que toutes les menachot qu'on apporte, toutes les offrandes végétales qu'on apporte, sont toujours matzot. Il y a une exception, à part celle dont je vous parle, qui est ce qu'on appelle le Korban Toda. Parce que dans le Korban Toda, où on exprime sa reconnaissance à Hachem, on apporte des offrandes végétales, une sorte de pain, quoi, si vous de, ou de, ou de, ou de crêpes, si on peut parler comme ça, qui, une moitié chametz et une moitié matzot. Donc, dans ce cas-là, on apporte aussi, donc, des matzot. Et aussi du chametz. Donc, des matzot comme toujours. Et aussi le Hametz. Donc, visiblement, si on considère qu'on a un point de départ et un point d'arrivée, on a une évolution, en quelque sorte, durant ces 49 jours qu'on va compter jusqu'au 50e jour qui sera le jour où on apporte le Corban de Shtéalechem. Il y a une évolution. On passe d'une nourriture animale à une nourriture humaine. On passe de quelque chose qui est Seorim, et là on passe donc à Rita, au blé. Du sans-travail humain, en réalité, c'est quelque chose de très travaillé. Et puis à l'arrivée, on a même du Hametz. Le Hametz, pourquoi est-ce que le Hametz n'a pratiquement jamais sa place sur le Mizbéach? Le Hametz correspond à la Midat HaDin, correspond aussi au Yetzer Le Yetzer Hara. Donc, a priori, on va pas amener quelque chose qui a à voir avec le Yetzer Hara. Je laisse de côté le problème du Korban Toda pour une fois en parler. Là, en l'occurrence, on apporte du vrai Hametz, mais il n'y a même pas de mélange, c'est du vrai Hametz. Pourquoi on apporte à Shavuot du vrai? Alors, le Mefarshim m'explique que le Yetzer Hara, il a été créé par Hachem. Hachem est Boré Ra. Hachem a créé le mal. On ne peut pas éradiquer le mal. Les Chachamim raconte, après la destruction du premier Beth Amikdash, les Chachamim ont décidé qu'ils allaient demander à Hachem d'accepter le constat qu'eux font. Ils disent finalement, le problème de l'idolâtrie, on n'arrive pas à le résoudre. Finalement, c'est vrai que Beth Amikdash a été détruit le premier, pas seulement à cause de l'Avodah Zara, mais le point important, c'est l'Avodah Zara. Et ils ont demandé qu'Hachem supprime, non pas le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, mais la virulence du Yetzer Hara d'Avodah Zara. Par virulence, j'entends le fait que on ne peut pas venir à bout de ce. C'est un must, le Yetzer Hara. Et Hachem a accepté. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a supprimé l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie n'est plus quelque chose qui s'impose. Ce n'est pas un passage obligé pour pouvoir penser, pour pouvoir vivre, etc. On peut résister, mais la Torah dit, la Torah nous dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le mal, il a dit, j'ai créé le mal, c'est vrai, mais j'ai créé Torah Tavlin. J'ai créé une épice qui permet d'assaisonner le Yetzer Hara et de le rendre comestible. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de détruire complètement, d'éradiquer complètement le Yetzer Hara, il s'agit de le mettre au service, lui aussi, au service d'Hachem. Pour bien comprendre, quand les Chachamim ont vu que ça marchait, Hachem avait accédé à leur demande concernant la virulence du Yetzer Hara, ils ont dit, mais peut-être on peut demander à Hachem de supprimer la virulence du Yetzer Hara tous azimuts. Hachem a dit, où vous voulez? Ok, d'accord. Le lendemain, il n'y avait plus une poule qui posait un œuf. Alors ça veut dire, le Yetzer Hara est un moteur qui fait fonctionner le monde. On a besoin du Yetzer Hara, mais d'un Yetzer Hara maîtrisé, bien sûr. Mais la seule maîtrise qui existe par rapport au Yetzer Hara, c'est la Torah elle-même. Il n'y a pas d'autre possibilité de venir à bout, de rendre le Yetzer Hara vraiment comestible, comme il doit l'être. Il n'y a pas d'autre façon de faire que de pratiquer la Torah, de faire, par rapport au Yetzer Hara, de donner à toutes les propositions du Yetzer Hara la réponse, je fais ce que la Torah a dit dans ce domaine-là. Je ne te suis pas, Yetzer Hara, je fais ce que la Torah a dit que je devais faire, et uniquement cela. Oui.
S'il vous plaît, j'ai pas compris quelque chose. Et on nous dit de ne pas posséder du Hametz à Pessah, et ils allaient offrir du Hametz en Corban?
À Shavuot, oui.
Le Homer, on le commence à partir de Pessah.
Oui, mais le Homer, il n'est pas du Hametz. Le Homer, c'est alors, le Corban, il est. C'est pas que le Homer, on l'apporte un seul jour. Le Corban lui-même. Ces épis là qu'on balance devant le Mizbeach, on fait ça le 16 Nissan. C'est tout. Donc, le commencement du décompte, après on ne fait que compter les jours.
Ah, d'accord. Merci.
Et donc ça c'est, je vous ai dit, le départ, le commencement, il a deux éléments, le lendemain de Pessah et le jour, le premier jour, c'est le jour où on apporte ce fameux Corban du Homer. Donc on est arrivé à... Alors, bon, on a bien compris qu'on ne peut pas éradiquer complètement les Yetzer Hara, même pas la virulence des Yetzer Hara sur tous les domaines. Mais on a la Torah pour vivre avec, en quelque sorte, comme on dit aujourd'hui facilement. Il s'agit de vivre avec, c'est-à-dire de savoir comment le consommer, comment le mettre au service d'Hachem, ce fameux Yetzer Hara. Donc, on a cette longue période qui est une espèce de calendrier dans le calendrier, parce qu'on vient de recevoir un nouveau calendrier, Chodesh HaZelachem, qui commence à Pessah, et puis maintenant on a un calendrier, une espèce de 50 jours, une espèce de calendrier. Aujourd'hui, les gens, ils ont ça marche au grattage aussi, gratter au fur et à mesure des jours qu'on a compté dans le Homer, mais il y a d'autres gens, vous pouvez aussi ouvrir des portes, on peut faire beaucoup de choses, faire des traits, etc. On compte. Alors, avant de m'occuper du compte, je veux revenir à la situation des Bnei Israël durant ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 50 jours, en quelque sorte? Le Corban de Pessah, ils l'ont approché, mangé. Eux, il n'y avait pas de misbère, donc ils ont mangé le Corban de Pessah. Et nous, par la suite, quand on va apporter le Corban Pessah, avec le sang, on va faire les aspersions, comme on fait souvent pour les Corbanotes, les aspersions sur le misbéach. Avec le doigt, on va asperger le misbéach avec le sang de l'animal. Dans tout Corban, il y a toujours deux parties. Une partie du travail du sang, ce qui est essentiellement en général des aspersions. Et c'est ça qui apporte la capara, en quelque sorte. Et puis ensuite, il y a un problème, le cas échéant. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Alors, des fois, la viande, elle est entièrement consumée. C'est dans une ola, entièrement brûlée sur le misbéach. Des fois, elle est partiellement consommée et un tout petit peu consumée. Alors, quand elle est consommée par les hommes, évidemment. Alors, dans certains cas, c'est seulement les kohanim, dans un ratat, hacham. Et puis, dans les autres cas, dans un shlamim, c'est le propriétaire du korban qui va pouvoir manger la viande. Bon, on a apporté ce korban. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là, on est le lendemain du premier jour de Pessah. Alors, dans le déroulement des 50 jours, on a plusieurs stations. Il y a une station qui s'appelle Kriyat Yam Souf, passage de la mer. Ça c'est un sujet pour soi. Je crois que je n'ai pas vraiment parlé cette année. Ce sera pour une autre année, Mir Sanchem. Ensuite, il y a deux grands éléments sur lesquels je voudrais revenir durant cette période-là. Durant cette période, le gros élément, à part que je saute sur Kriyat Yam Souf, je dépasse. Premier élément, ensuite, c'est Amalek. Amalek, c'est, au départ, c'est un peuple qui est issu d'un personnage qui s'appelle Amalek. Et Amalek, on connaît son papa, sa maman. Son papa, c'est Eliphaz, le fils d'Ésav. Il est donc le petit-fils d'Ésav. Et sa maman, c'est Timna, c'est une princesse, c'est une sacrée bonne femme. Elle a essayé d'entrer dans la famille, en fait. Chazal disent qu'elle est allée, elle voulait entrer chez Abraham, chez Yitzhak, chez Yaakov. Personne n'a voulu d'elle. Elle a essayé d'entrer chez Esav. Esav, il ne voulait pas d'elle non plus. Chez Eliphaz, c'est le fils. Alors, comme épouse, elle n'a pas été acceptée. Elle est seulement concubine. Et donc, Eliphaz, le fils de Esav, avec sa concubine Timna, une princesse, par parenthèse, on ne sait pas du tout pourquoi ils l'ont refusée. On ne sait pas. Avraham Avinu qui a accepté tout le monde, elle a été refusée. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, elle, avec Eliphaz, ils ont produit ce sale gosse, au départ, qui s'appelle Amalek, et qui devient la pointe avancée des sables. C'est-à-dire la partie la plus nuisible, en quelque sorte, des sables. Et donc, dans la période qui va de ce Korban Pessah jusqu'à Shtei Alechem, bon, il y a après Kriyat Yam Souf, il y a Amalek. Amalek attaque Israël. Alors, on connaît ça aujourd'hui, il l'attaque pour rien. Il n'y a rien à gagner. Et ça, Amalek sait très bien qu'il va perdre la guerre en question. Dans la Shira, si vous regardez, vous voyez qu'en réalité, les peuples sont paralysés parce qu'ils ont entendu ou vu ce qu'Hachem a fait pour le clan Israël. Personne ne bouge. Les Bnei Israël circulent, c'est une promenade de santé. Personne ne les empêche d'avancer. Et Amalek, il n'est pas question de ça. Mais il sait qu'on ne peut pas attaquer le clan Israël à ce moment-là. Attaquer le clan Israël, c'est comparer à sauter dans une baignoire brûlante. Amalek saute dans la baignoire. Il s'ébouillante. Mais il a refroidi la baignoire. Maintenant, on peut attaquer Israël. Il a montré qu'on pouvait attaquer Israël. Comment les Bnei Israël ont gagné cette guerre d'Amalek? Ça, c'est aussi c'est un grand sujet. Mais donc, on peut dire, les Bnei Israël, en sortant d'Égypte, ils sont confrontés à un élément extérieur qui veut les annihiler, qui veut les empêcher de devenir le peuple d'Hachem, en fait. Amalek, il pense toujours que, enfin, Esav pense toujours que c'est lui le Bechor. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ils sont confrontés au Yetzer Hara extérieur, en fait. Une attaque extérieure. C'est pas pour gagner un territoire. C'était même pas pour gagner la guerre, puisqu'ils savaient très bien qu'ils allaient la perdre. C'est presque une question de principe. Le deuxième point très important durant cette période, le deuxième point qui est fondamental, c'est ce qui se passe juste au-dessus de cette histoire de Amalek, c'est l'histoire qui se passe à Mara. Mara, c'est, comme son nom l'indique, c'est la fameuse station, étape dans laquelle Israël avait besoin d'eau et il n'y avait que de l'eau amère. Alors évidemment, ils ont commencé à protester et ils se sont évidemment tournés contre Moshe Rabbeinu. Il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, est-ce qu'ils vraiment ils vont me tuer ou quoi? Bon, alors Moshe Rabbeinu a fait ce qu'Hachem lui a dit de faire et il a adouci l'eau. Mais Mara est mieux connue, si on peut parler comme ça de ce point de vue-là, du point de vue qui nous intéresse plutôt, c'est qu'à Mara, les Bnei Israël ont reçu les mitzvot. Ils ont reçu 10 mitzvot, dont par exemple le Shabbat, dont Kibud Av Va'em, dont la paradouma, c'est-à-dire la procédure de purification de toute personne qui est venue au contact d'un mort. Donc des mitzvot fondamentales, Shabbat, et la façon de sortir de la touma. J'ai reçu ces mitzvot. Alors, ce que je veux retenir du fait qu'ils ont reçu ces mitzvot, c'est que du coup, on ne peut pas considérer que ce qui se passe au Sinaï, c'est caractérisé par le fait que les Bnei Israël ont reçu les mitzvot. Parce que ça, ils les avaient déjà reçus avant. D'accord, ils en ont reçu 10, ici, on en trouve, ici, il y en a 613. Mais bon, l'idée d'avoir des mitzvot, c'est une idée que, voilà, les Bnei Israël ont déjà reçu les mitzvot. En fait, ils ont déjà reçu une mitzvah dans Achodesh Azelachem. Mais maintenant, disons, dans l'ensemble des mitzvot, le cadre du temps, quoi. Et dans ce cadre-là, dans ce calendrier-là, il y a des mitzvot. Et donc, du coup, ça nous oblige à regarder à ce moment-là, alors c'est quoi finalement le Sinaï? Si c'est pas le fait de donner des mitzvot, c'est pas caractérisé par le fait de donner des mitzvot. Bien sûr, on a reçu les mitzvot. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Au Sinaï, ce qui s'est passé, c'est que Hachem a parlé aux hommes. Il a établi une relation avec le clan d'Israël. Il a installé le clan d'Israël comme son peuple. Au pied du Sinaï, on est devenu un peuple. Jusque-là, on n'était pas vraiment un peuple. Donc, à ce moment-là, Hachem parle. Donc, Hachem entre dans le monde d'Ebné Israël, en fait, si on peut parler comme ça. Il entre dans le monde tout court, et en particulier avec l'Ebné Israël. Vous savez, cette fameuse révélation-là, qui est la parole d'Hachem qui s'adresse aux hommes. Qu'est-ce qu'elle fait, cette parole d'Hachem, quand elle s'adresse aux hommes? Ben, est-ce que, voilà, bon alors, on nous a parlé, très bien, intéressant. C'est, vous savez, ce qui se passe, c'est que quand ils entendent cette parole, la première des paroles, ils en meurent. Ils sont projetés en arrière, ils meurent, et ils ressuscitent. Mais cette résurrection, c'est pas un retour à la situation antérieure. Ils renaissent, mais cette fois-ci, la parole qu'ils ont entendue, elle est en eux. Elle est en eux. Ça veut dire, certaines façons, ils ne peuvent plus transgresser cette parole. Parce que c'est une partie d'eux-mêmes. Ok. Ils entendent la deuxième parole. Loyer la fin. Même histoire. Projeté en arrière, il meurt, il ressuscite avec le loyer, le ha, je n'aurai pas d'autre Dieu que moi. Bon. Fiché en eux. Donc, quelque part, c'est fini avec l'idolâtrie. Si les Bnei Israël avaient continué d'écouter, eh bien, le processus se serait répété jusque, y compris, disons, la dernière parole d'Hachem. Mais à ce moment-là, on sait que c'est un Seret HaDibro d'une certaine façon, c'est Kol HaTorah Kula. Donc l'histoire était terminée. L'humanité avait réussi, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas passé comme ça parce que les Bnei Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, bon, ça a marché deux fois, on a ressuscité, on n'est pas client pour un troisième essai. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, non, c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est toi qui vas nous parler. Toi, tu écoutes la parole d'Hachem, en quelque sorte, là, c'est toi le récepteur, ensuite tu te tournes vers nous et tu nous dis ce qu'Hachem a dit. À ce moment-là, on ne va pas mourir. Et donc, ça ne va pas s'en ficher en nous. Et du coup, ce qui s'était fiché en eux, qui était là, et qui allait rester si on avait eu cette même, la bonne attitude jusqu'au bout, si donc c'était possible de faire quelque chose qui avait fini par... qui allait finir par devenir l'idolâtrie, le fameux veau d'or. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu le faire, puisque le loï et le fin étaient en eux? Et c'était fiché en eux dans l'hypothèse où ça allait jusqu'au bout. Ils avaient entendu les 10 paroles. Ils n'ont pas entendu les 10 paroles. Maintenant, cette parole d'Hachem qui s'adresse au clan d'Israël, qui montre que Hachem est présent, il y a ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine, dans le clan Israël. Le Ramban dit que le Mishkan, ça je vous l'ai déjà dit, que le Mishkan c'est un Sinaï portatif. Le Ramban considère que le Sinaï c'est pas quelque chose qui s'est déroulé une fois. C'est quelque chose qu'il fallait reproduire. Comment on reproduit le Sinaï? Eh bien, en fabriquant la résidence d'Hachem. Hachem a accepté de résider momentanément sur ce Sinaï. Maintenant, on va le faire résider dans le Mishkan. Et donc, on va construire un monde, un mini-monde, un cosmos, ce que vous voulez, qui est ce Mishkan, qui va permettre à Hachem de résider parmi les Bnei Israël. Mais résider parmi les Bnei Israël, c'est comme le Passouk le dit, « Veshachanti betocham », je résiderai parmi eux. Et betocham, Chazal lise, ça veut dire dans le cœur de chacun. D'accord, Hachem va être présent dans le cœur de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachem est présent dans le cœur de chacun, le cœur, c'est l'instance dirigeante de l'être humain. Le cœur, il est là. C'est pas tout à fait conforme au cours, mais c'est le cœur, il est là. Ce cœur-là, en tout cas. Les Bnei Israël, donc, quand ils vont prendre des décisions, si Hachem est vraiment dans leur cœur, ils prendront des décisions conformes à la volonté d'Hachem. Donc, conformes à la volonté d'Hachem telle qu'elle s'est exprimée dans ce monde-ci, c'est la Torah. Donc, c'est ça le Sinaï. Le Sinaï, c'est ça. C'est ce changement de statut d'un clan Israël auquel Hachem parle. Si vous voulez, jusque-là, jusqu'à ces fameux Aseret à Dibrot, on était dans la suite des Asara Ma'amarot. Vous vous souvenez, la création du monde, elle s'est faite avec 10 Ma'amarot. Ma'amarot, c'est les paroles d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole d'Hachem, c'est la vie, c'est ce qui donne la vie. Donc, quand Hachem a fait exister les choses, il a donné l'ordre que les choses existent et qu'elles vivent, le cas échéant, qu'est-ce qui les fait vivre? C'est la parole d'Hachem qu'il y a. Donc, c'est comme si la parole d'Hachem, il faut la considérer comme si elle était dans les choses elles-mêmes. C'est, je ne suis pas en train de vous parler de panthéisme, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce qui donne la vie aux choses, c'est la parole d'Hachem. Ça veut dire que dans la nature, la parole d'Hachem qui s'exprime par exemple, les lois de ce qu'on appelle les lois de la nature. C'est aussi la volonté d'Hachem, bien entendu. Ces Ma'amarot, il s'agit de travailler avec ce qui va devenir la Torah, en fait, ce qui est la Torah, de travailler pour les extraire du monde physique dans lequel elles sont, là, et pour qu'elles redeviennent parole d'Hachem, si on peut parler comme ça. Qu'on les entende et qu'elles s'adressent à nous. Les Asara Ma'amarot ne s'adressaient à personne. C'était pas, il n'y avait pas de dialogue dans les Ma'amarot d'Hachem. C'est les ordres qu'Hachem a donnés. Mais là, Hachem s'adresse à des gens qu'il a voulu installer comme des récepteurs de sa parole. Nous, le clan Israël est le peuple d'Hachem, c'est-à-dire le peuple qui est le récepteur de la parole d'Hachem. Ça, c'est le... On va maintenant entrer dans le détail, mais si vous voulez, c'est c'est l'expression de la volonté d'Hachem de donner aux hommes un pouvoir absolument faramineux, bon, parce que la Torah, qui est donc la parole d'Hachem, maintenant elle s'est adressée, Hachem s'est adressé aux hommes, et parce qu'ils ont été touchés par cette parole, parce que quand elle passe par Moshe Rabbeinu, ils sont touchés par cette parole, et donc ils vont produire eux-mêmes de la Torah. Les hommes vont produire de la Torah. Ils vont commenter la Torah écrite, si on peut parler comme ça. Peut-être même que ça existe avant, mais bon. Et ils vont produire de la Torah. Rabbi Akiva, Khaberav, ces gens-là, ils ont produit de la Torah. Ce sont des hommes qui produisent la Torah. Et cette Torah, c'est la parole d'Hachem. Mais c'est une possibilité qui a été donnée aux hommes à partir du moment où Hachem leur a parlé. Et où il les a, en quelque sorte, par la suite, obligés à accepter de jouer ce rôle-là. Accepter d'être des fabricants de Torah, en fait. Les Bnei Israël ne voulaient pas. Torah écrite, ils étaient d'accord, mais la Torah orale, c'était pas chaud. Ils ne voulaient pas s'investir là-dedans. Hachem ne leur a pas donné le choix. Je reviens à Sfirat HaOmer. Donc, on a ce laps de temps durant lequel, en plus de Kriyat Yam Suf, il s'est passé Amalek et il s'est passé Mara, qui va donner un sens particulier au Sinaï. Et en fait, c'est-à-dire, les Bnei Israël ont fait connaissance avec la notion de mitzvah. Recevoir une mitzvah, c'est pas du tout recevoir un ordre. Simplement. Je vous ai déjà dit souvent que la graphie de mitzvah, même Sadik Vavé, ça se lit aussi bien Metsavé, Metsouvé que Mitzvah. Donc en vérité, quand on parle d'une mitzvah, on parle de quelque chose qui émane du Metsavé, Hachem, qui est adressé au Metsouvé, vous et moi, et le contenu de ce qui circule là, c'est le détail de la mitzvah. Et quand les hommes, quand les êtres humains accomplissent la mitzvah, ils bouclent la boucle, ça remonte. C'est pas de ce qui était descendu d'Hachem vers l'homme, remonte de l'homme vers Hachem. Et donc, voilà, on a fabriqué une entité où les hommes et Hachem sont, si on peut parler comme ça, ensemble. Ils sont associés. Hachem nous associe à quelque chose de particulier, quelque chose, tout ce qu'Hachem fait, c'est toujours une création. Et comme les mitzvot doivent être toujours comme si elles nous avaient été données aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à tout moment, on est astreint, grâce aux mitzvot, à fabriquer de la Torah. Parce que quand on va appliquer, on va faire la mitzvah, l'important c'est, je fais la mitzvah parce que je suis ordonné, mais en même temps j'ai une obligation d'étudier la mitzvah, d'essayer de comprendre ce qu'elle me dit, cette mitzvah. Pas du tout pour modifier ma motivation. Ma motivation c'est, je fais ce qu'Hachem m'a demandé, point barre. Ça s'arrête là. Mais en plus de ça, il y a une mitzvah d'étudier, le contenu de la mitzvah. Donc cette expérience-là, elle fait partie, elle est constitutive, si vous voulez, de cette évolution dans laquelle, qui a lieu entre le Korban Pessah, exactement le lendemain du Korban Pessah, après qu'on ait fait cette rupture avec avec l'idolâtrie. Alors, on peut commencer à construire quelque chose. Cette construction, elle se fait en 49 étapes. Mais rappelez-vous, au Sinaï, on a dit que la raison pour laquelle on est sorti de Mitzrayim, à ce moment-là, on est sorti prématurément, vous savez bien. On aurait dû rester en Mitzrayim 400 ans. On y est resté 210 ans, dont 86 d'esclavage. Mais, bien sûr, il y a une lecture qui ferait que les 400 ans commencent à partir d'Yitzhak. Mais bon, c'est une lecture qu'on aurait peut-être méritée, ou je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas celle qui a été retenue, visiblement. Mais, comme on dit dans la Gada, Hachem, Rajbaku, Chishev et Taketz. Et on explique que les Bnei Israël étaient au 49e degré d'impureté. 49 degrés d'impureté, ça veut dire que si on fait encore un pas, on dégringole encore un peu, il n'y a plus personne qui sort d'Égypte. Parce qu'il n'y a plus de peuple. 50e degré d'impureté, c'est la mort. Hachem nous a sortis à toute vitesse à ce moment-là. Pour pas du tout qu'on tombe dans ce fameux 50e degré. Mais si on était à moins 49 et qu'on veut arriver à plus 50, enfin plus 49, chaque jour, il faut travailler pour éliminer un certain niveau de négatif et acquérir un niveau positif. Faire deux choses. Chaque jour, on fait deux choses. Un travail pour annuler les 49 degrés d'impureté et un travail pour commencer à gravir un par un les 49 échelons de pureté, en fait. Durant cette période-là, le clan d'Israël s'est constitué. À Kriyat Yamsouf, en fait, les Bnei Israël ont expérimenté. Ils étaient en fait dans un autre monde. Bon, ça n'existe pas un monde dans ce monde-ci, puisse marcher à pied sec dans la mer, au fond de la mer. C'est pas possible. Donc, les Bnei Israël qui ont fait ça, ils ont vécu dans un autre monde. C'est autre chose. C'est un monde différent dont on n'a absolument aujourd'hui aucune idée. Mais en réalité, on est entré, nous, clan Israël, en tant que clan, on est entré définitivement dans cet autre monde. Le clan Israël, quoi qu'il fasse, il appartient à un autre monde. Il est dans ce monde-ci, d'une certaine manière, inclassable. D'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de le classer n'ont pas trouvé de place pour le clan Israël. Tous ceux qui ont essayé de classer, ils ont dit que la seule solution, c'est que le clan Israël disparaisse. Il s'assimile. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le clan Israël s'assimile. Et donc, il fait ce qu'il faut pour qu'il ne s'assimile pas. Et quand le clan Israël essaie de s'assimiler, Hachem fait en sorte, puisque vous voulez vous assimiler, bon, alors, si vous ne marquez pas, vous, la distance, les goyim vont se charger de marquer la distance. Donc ça, c'est ce changement radical qui a déjà eu lieu à Kriyat Yamsouf. Et ensuite, il y a Mara et donc un positif et un négatif, en quelque sorte. Le problème du Yetzer Hara extérieur, et puis ensuite, le problème d'un Yetzer Hara intérieur qui commence par vouloir mettre Moshe Rabbeinu à mort parce qu'on n'a pas d'eau. Pas d'eau. Il semble qu'ils avaient même de l'eau pour leur bétail, mais pas pour eux. On passe par toutes ces étapes, l'une après l'autre. Chaque jour est une entité. Chaque jour, c'est un échelon dans un processus qui va nous élever jusqu'à un degré incroyable, puisqu'Hachem va nous parler. On va devenir un peuple, Hachem va nous parler à nous, son peuple. Et changer complètement notre statut, notre rôle dans le monde. C'est ce qui se fait au fur et à mesure du passage de ces jours. Alors, on compte à la fois les jours et on compte aussi séparément les semaines. Ça veut dire pourquoi il faut compter les jours et compter les semaines. Parce que quand on compte les jours, on est dans un compte des 50. Quand on compte les semaines, on est dans un compte du 7 x 7. Vous connaissez ce compte des 7 x 7, le 50, 50 ans, 7 Shemitot, et 7 ans qui représentent chaque semaine. Et donc, ça veut dire qu'il y a des mini-cycles, et puis un cycle beaucoup plus grand, qui est composé de la répétition de ces mini-cycles. Visiblement, dans chaque cycle, les jours qui constituent ce cycle, donc la septaine en question, les 7 jours en question, ont un point commun. Bon, la preuve, c'est qu'on compte les semaines. C'est-à-dire qu'on a fait une espèce de bilan chaque semaine. On fait un bilan quotidien, et ensuite un bilan de la première semaine, ensuite un bilan quotidien de... et puis un bilan hebdomadaire, etc. On voit très bien que la progression, elle est très structurée. C'est pas simplement on avance. Non, on avance chaque fois d'un jour, d'une entité. Et ensuite, on avance d'une semaine. Donc, il y a un travail qui se fait à l'échelle de la semaine. Et ensuite, on a l'éternité pour nous, c'est 50 ans. C'est le chiffre 50. On dit que la Terre sera jamais vendue, l'itzmitut, définitivement. Ça veut dire qu'elle n'est pas vendue pour plus que 50 ans. On sait très bien que la durée peut dépasser 50 ans. Mais quelque part, il y a cette idée que le cycle c'est 50. C'est le yovel par rapport à la Shemitah, etc. Et là aussi, on a un cycle. Il y a un 50, puis cette fois-ci, c'est avec l'ambiguïté, mais alors il faudrait savoir, est-ce que c'est 50 ou 7 fois 7, ça ne fait pas, enfin, dernière nouvelle, ça ne faisait toujours pas 50. Donc comment on peut avoir 50 et en même temps 7 fois 7? C'est un peu problématique quand même. Et qu'en vérité, le 50, on en parle, mais quand on, à l'échelle des jours, à l'échelle 50, c'est la même chose avec la Shemitah. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait, est-ce que l'année du Yovel compte dans la dernière Shemitah, ou est-ce qu'elle est une année pour soi, ou est-ce qu'elle compte à la fois dans la dernière Shemitah et dans la nouvelle Shemitah? Ça, ce sont des grandes discussions qui ont à faire avec ça, justement. Cette idée de, bon, on ne sait pas exactement. Quand je dis qu'on ne sait pas exactement, je voudrais quand même faire remarquer que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire sortir d'Égypte. Ça, on en a déjà largement parlé. Ils ne savent pas. Et on ne sait pas. Quand eux, ils ont compté les 50 jours, ils ne savaient pas où ils allaient. Nous, on triche un peu parce que on sait que au bout de 50, enfin, le 50e jour, il y a le gâteau au fromage. Mais bon, eux, ils ne savaient pas. le Navi Yirmiya dit que Hachem fait l'éloge du clan Israël en disant « L'Echter Harayba Midbar, tu m'as suivi dans le désert. » Le clan Israël a suivi Hachem dans le désert, c'est-à-dire nulle part. Nulle part. Ils ont suivi Hachem à un endroit qui s'appelle nulle part. Visiblement, il y a une permanence de ce nulle part. Elle a arrêté sa chère Areka, dit Hachem à Abraham Abin. Tu vas aller le pays que je t'indiquerai. Abraham Abin, ce n'est pas du tout où on va. Hein. Tu vas faire la Akeda dans la région de Moria. Il ne sait pas où il va faire son corban. Il y a un petit nuage sur la montagne, là, c'est là-bas. Il ne sait pas. Le Bnei Israël sort d'Égypte. Ça ne veut rien dire d'abord de sortir d'Égypte pour eux. Vous savez ce qu'on a dit sur la Matzah. Et puis surtout, même durant tout le processus, on ne sait pas où on va. Alors en réalité, nous on sait qu'on va à Shavuot, mais on ne sait pas vraiment où on va. On n'a aucune idée de la transformation radicale qui se passe si on se construit en tenant compte de ce rythme-là. Compter les jours et compter les semaines. Sans entrer dans les explications de Sphirot, etc. Il y a quand même un compte de jours et un compte de semaines. Il y a une discussion pour savoir si ce sont deux mitzvot ou une mitzvah. Est-ce qu'on fait deux fois deux brachot, une seule bracha? Bon, c'est une seule mitzvah, mais où il y a un double compte. Faire quelque chose sans savoir où on va. Pourquoi c'est tellement important qu'Hachem propose à Abraham, au clan Israël, ça, quelque chose, on ne sait pas. Parce que ce vers quoi on va, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, en fait. Donc, on ne peut pas le caractériser dans le monde, dans ce monde-là. C'est tellement fort que même le début dont je vous ai parlé, l'origine, au lieu de dire, voilà, on commence à compter à partir du 16 Nissan. C'est clair et net. Ouais, pas du tout. La Torah, elle prend une formule tellement empoulée, tellement ambiguë, que ça donne matière à une opposition avec les Tzedukim. Un énorme truc, quoi. Pourquoi? Pour ne pas dire les choses directement. Non, parce qu'on part d'un point qui est le lendemain d'un certain point, et puis c'est aussi caractérisé parce que le premier jour, on apporte quelque chose qui est considéré comme c'est une espèce de corban qui n'est pas un corban, et ça n'existe pas ce truc, par ailleurs. Et ça se fait de façon très très surprenante, ça veut dire... On est Mechalel Yom Tov, on va moissonner, très très compliqué à comprendre. On parle d'un lendemain de la fermeture de la période d'Avodah Zarah, mais l'Avodah Zarah, elle a continué. D'accord, on a apporté le Korban Pessah. Mais les anges, à Kriyat Yam Souf, ils ne voient pas la différence entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Ils disent « Elu avdei avodah zara ve elu avdei avodah zara ». Ceux-ci sont idolâtres et ceux-ci sont idolâtres aussi. Donc il y a quelque chose de quelque chose qui dépasse la justice élémentaire. Ce que disent les malachim, c'est leur critique qu'ils font à Hachem, en fait. C'est tout à fait justifié. Mais quoi? En vérité, les Bnei Israël, ils ne devaient pas sortir d'Égypte. Si Hachem n'avait tenu compte de ce qu'ils étaient, que de ce qu'ils étaient. Hachem dit bien clairement, vous ne sortez pas d'Égypte. Vous ne sortez pas d'Égypte parce que vous avez souffert, parce que vous avez crié au secours, parce que, etc. Pas du tout. Vous sortez d'Égypte parce que j'ai promis à Abraham Avinu que vous allez sortir de là. Vous comprenez? C'est pas que la situation est à ce point insupportable qu'Hachem va intervenir pour mettre fin à ce scandale, à cette souffrance énorme. Non, ce n'est pas suffisant. Akadosh Baruch Hu, il utilise, dans beaucoup de situations, il utilise, on peut dire, des prétextes. Ça s'appelle Alilot. Les prétextes. Mon cher Abeinu, quand Hachem lui dit d'aller parler à Paro, faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, Moshé dit non, je ne veux pas. Pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas parce qu'il ne veut pas marcher sur les plates-bandes de son grand frère Aaron. Aaron est sur place. C'est lui qui console les gens, c'est lui qui leur donne de l'énergie, etc. Et lui, il va arriver et il va être placé au-dessus d'Aaron, il n'a pas envie. C'est humain, il n'a pas envie de... Et il est puni pour ça. Hachem me dit, ok, c'est bon. On va mettre Aaron, tu vas être l'Elohim de Paro et Aaron sera ton prophète. Mais en attendant, tu devais être Kohen Gadol, tu ne deviendras pas Kohen Gadol. Kohen Gadol, ce sera Aaron. Tu ne vas pas entrer en Eretz Israël. Tu ne verras pas ce que je vais faire aux 31 rois lors de la conquête. Tu vas voir ce que je vais faire à Paro, mais pas plus. Adam Arishon, il fait une faute, Hachem lui dit, tu vas mourir, tu vas devenir mortel. Adam Arishon lui dit, mais tu avais créé le Malach HaMavet avant moi. À quoi ça sert que tu connais le Malach HaMavet? Tu savais donc bien que j'allais fauter. Je devais fauter. Plus exactement, tu avais décidé que j'allais mourir, alors tu as pris le prétexte de ma faute. Et mon cher Abinou, c'est le prétexte de mes fautes qui fait. Mais c'était décidé de toute éternité que c'est Yoshua qui allait faire entrer les Bnei Israël en Mitzrayim, en Eretz Israël. Hachem a pris un prétexte. Mais ce qui se déroule, c'est le plan d'Hachem. Il y a beaucoup de... Ok, alors Hachem leur dit, voilà, tu vas me suivre. Et puis il y a des gens qui sont assez fous, si on peut parler comme ça, pour le suivre. Pour le suivre, tout en ne sachant pas du tout où il va. Il n'a même pas pris la peine de leur dire où il allait. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas trouvé sur la carte. On ne leur a jamais rien dit. C'est quoi ça? C'est une confiance absolue. Et venez Israël, la naissance du clan Israël, elle est basée sur une confiance absolue. Absolue. Et c'est tellement difficile à tenir que ceux qui ont fait cette confiance absolue, ils n'arrêtent pas de se casser la figure. Ils n'arrêtent pas de vouloir retourner en Égypte. Ouais, ils veulent retourner en Égypte. Il n'y a plus rien à faire en Égypte. Non, mais c'est des gens qui se considèrent comme si c'est des Égyptiens. Ça fait 210 ans qu'ils sont en Égypte. Ils sont Égyptiens. On dirait aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, on aurait dit siècle dernier, c'était des Égyptiens de confession mosaïque, bon, un peu avant le temps. Rien du tout, c'est... Ils n'ont pas... On leur demande de penser la liberté à eux qui ne connaissent rien d'autre que l'esclavage depuis plusieurs générations. Donc, sans arrêt, des questions impensables, des questions... C'est ça, c'est la comparaison, la seule comparaison qu'il y a, c'est la confiance que fait le nourrisson dans les bras de sa mère. Il ne sait pas où il va, il ne sait rien, il fait confiance. Le clan d'Israël a été appelé à faire confiance à Hachem. C'est comme ça qu'on est né. Et la vraie émouna, la vraie confiance, c'est la confiance absolue. Et le grand problème dans toutes les générations, il me semble dans notre génération peut-être encore plus, et maintenant avec tout ce qui vient de se passer, encore plus, quoi. Construire une confiance absolue en Hachem, alors qu'on n'a aucune idée de là où on peut aller. On a vécu des choses, voilà, des choses impensables. Tout le monde dit que on avait donc la moitié de l'univers confiné, des pays entiers fermés complètement à double tour, sans contact avec l'extérieur. Nouvelle-Zélande, Australie. Maintenant, une guerre totalement improbable. Mais en vérité, on a oublié qu'il y avait quelque chose d'impensable qui s'est aussi déjà passé. Ce qui s'est passé entre 1933 et 1945, c'est aussi impensable. C'était aussi impensable. Il n'y a pratiquement personne qui y a cru pendant très longtemps. Même les joueurs qui étaient sur place, ils ne croyaient pas que c'était possible. Il y a des gens qui ont vu des choses affreuses. Et on leur a dit, il y a encore pire. Ils n'y ont pas cru. Ils n'ont pas cru. C'était impensable. Vous ne pouvez pas y croire. Donc ça a commencé déjà là. Peut-être qu'il y avait des choses encore avant. Mais là, c'est vraiment impensable. C'était déjà impensable. Et maintenant, c'est vu au sud, tout le monde est d'accord qu'il y a des choses totalement impensables. Et qui sait si demain les choses, il faudra une émouna tellement forte pour être prêt à, on ne sait pas quoi. Donc c'est très compliqué. Il faut, en particulier, éduquer des enfants à une émouna absolue. Ils ne sont pas la émouna que, bon, il peut y avoir, il pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir ça, des références à des choses qui ont déjà eu lieu. Non, mais il peut y avoir des choses qu'on ne sait même pas penser. N'ont pas été pensées, qui sont déroulés devant nos yeux, l'impensable. Voilà, donc, cette construction, elle-même, elle débouche sur un impensable. L'impensable, c'est Hachem va parler aux hommes. Il va leur parler directement. C'est impensable, c'est... Ça ne peut pas se décrire. On va dire des mots, mais ils ne veulent rien dire, ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a parlé aux hommes? Je ne sais pas. Il faut s'habituer que, voilà, on ne sait pas. On va donner des approximations, mais il faut être bien conscient que ce n'est jamais que des approximations. Voilà ce que je voulais dire là pour cette Sfirat HaOmer. Alors,